R22 tout le monde. Antenne Jeff Clack.
Bonsoir à tous. Merci à tout le collectif de la revue d'être là ce soir. Donc on vous laisse discuter, faire votre débat tranquillement et ensuite on se retrouve pour boire un verre juste après. Ok.
Parfait.
Merci.
Bonsoir. Donc on est le collectif Jeff Clack, on est très heureux et heureuse de présenter notre cinquième numéro qui est sorti donc aujourd'hui, qui s'appelle Course à pied, qui est orange, voire jaune, et qui est là-bas. Donc nous on est, donc ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, que la revue existe. Ce qu'on aime à dire c'est que la revue est précédée d'un collectif. Et que donc en gros on s'est rencontrés autour de l'envie de faire une revue papier ensemble. Une chose à préciser qui est très importante et qui nous tient à cœur, c'est que nous sommes un collectif de bénévoles. Et ça c'est un peu malheureux, c'est pas choisi, c'est un peu subi, c'est qu'on aimerait bien se payer mais qu'on ne peut pas. Et qui dit collectif de bénévoles dit des gens qui a priori ont quelque chose à côté qui leur ramène de l'argent. Donc, et là-dessus, ce qui est important aussi à savoir, c'est que la revue, elle existe parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, qui peuvent produire cette revue, qui peuvent consacrer du temps à cette revue, et donc qui sont au chômage, qui sont au RSA, qui, voilà, qui jonglent un peu comme ils peuvent, de travail en indépendant, d'auto-entrepreneuriat, de toutes ces choses-là, et qui, voilà, et qui donc arrivent à trouver du temps pour produire la revue. Donc, dans les conditions un peu de production de la revue, ça, c'est quelque chose qui est quand même très... très important. J'ai dû oublier plein de trucs, mais c'est pas grave, je rajouterai au fur et à mesure.
Bah, du coup, je vais vous parler de comment Course à pied est née, parce qu'à chaque fois, en fait, on se réunit, on fait plusieurs assemblées générales, on essaie de plus en plus en faire moins sur le thème avant de commencer à écrire, mais en tout cas, on se voit très nombreux pour débattre un peu à bâton rompu sur ce que ça nous évoque, Course à pied. Et donc, évidemment, Course à pied, tout de suite, on s'est dit, bah, ça nous évoque. Enfin, c'était très évident, en tout cas, le jogging, les pratiques de soins de soi, etc. Il y avait d'autres personnes qui pensaient à la fuite, à la cavale, d'autres qui pensaient même aux migrants, leur parcours à pied, qui n'est pas forcément un parcours qui se court, mais un parcours qui se fait quand même dans une certaine urgence. Et au final, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on retrouve dans toutes ces histoires-là? C'est le corps. Le corps qui est engagé, le corps qui a besoin d'un élan musculaire. Et donc, la question qui nous a beaucoup animé, c'était qu'est-ce qui nous fait courir? Enfin, du coup, on a fait le pari de tenir tout ça ensemble. Mais cette fois-ci, en fait, on a trouvé cette coïncidence que se sauver, enfin, ce verbe voulait dire à la fois se barrer et à la fois se sauver, rester entier. Et rester entier, trouver les pratiques qui peuvent nous faire en sorte qu'on puisse prendre soin de soi pour rester entier. Et donc, dans le numéro, on va dire qu'il y a comme deux têtes qui dialoguent, quoi. À la fois, la question de ces urgences exogènes, enfin, ces urgences qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire fuir de la prison, fuir de son pays, devoir partir hyper vite. Et ces autres exigences qu'on pensait comme ça un peu plus intimes, qui étaient prendre soin de soi, les injonctions qui existent de rester en forme, etc.
Réflexif.
Et évidemment, en travaillant sur le sujet, évidemment, ça se complexifie. Et donc, dans la tête qui parle plus ce soir, on est avec Anaïs Goyon qui va nous parler des tests de féminité dans le sport de haut niveau. Donc c'est plus la tête de rester en forme, garder la pêche et la ligne. Et dans cette partie-là de la revue, il y a par exemple Nina Faure qui a écrit un papier sur le fitness, sur comment en fait un jour elle a trouvé un dépliant, une pub pour assez agressive pour une salle de fitness, et qu'elle s'est prise au jeu et qu'elle a commencé à fréquenter cette salle, et comment en fait le truc commence à la travailler quotidiennement pendant longtemps et qu'elle aime bien, voilà, aller à la salle de fitness, et elle nous parle de ça parce qu'elle parle de, des problèmes politiques que ça lui pose et aussi de tous les bénéfices qu'elle en tire, quoi. Enfin, il y a aussi un papier sur les troubles alimentaires où des femmes vont raconter leur expérience, leur parcours, pour montrer comment les troubles alimentaires sont des rapports au corps de contrôle, de perte de contrôle, pas simplement un rapport bête aux normes de beauté, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est d'autres types de contraintes et injonctions qui se déclarent ou qui se manifestent à travers les troubles alimentaires. Il y a un superbe entretien sur le développement personnel, sur en fait le fait qu'on prenne pas tellement au sérieux le développement personnel. Souvent on en rigole quand on a un pote qui vient nous dire oh, bah, ça a changé ma vie, etc. Et en même temps, en fait, les lecteurs et lectrices ou enfin les consommateurs et consommatrices de développement personnel formulent des demandes qu'ils arrivent à concrétiser à travers leur expérience de lecture. Il y a un sociologue, donc Nicolas Marquis, qui décide de prendre ça au sérieux et se demander mais alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand quelqu'un décide de prendre ça au sérieux? Qu'est-ce qui se passe quand un lecteur dit bah, ça m'a sauvé la vie? Enfin, quelle était cette rencontre entre lui et le livre, quoi. Mais du coup, je pense qu'on va laisser la parole tout de suite à Céline.
Oui, mais qui dans le numéro, il contient un article, un entretien plutôt. Qui a été réalisé par Michael Correa et moi-même. Michael Correa qui a écrit aussi Histoire populaire du football, pour resituer aussi, puisque c'est un gros travail de recherche dans le milieu du sport aussi. Et du coup, qui donc un entretien qui a été réalisé avec Anaïs Vauhion, chercheuse et enseignante à Paris, à l'Université Paris-Sud, et qui retrace l'histoire sociale et politique des tests de féminité et contrôle de genre, en fait, dans le milieu sportif, sous caution d'une certaine équité à laquelle se raccrochent corps et âme les sportives. Mais je vais laisser Anaïs en parler.
Merci Céline. Bonjour à toutes et à tous. J'ai fait le choix de d'abord commencer par me présenter. Éclairer, si vous voulez, ma trajectoire universitaire et intellectuelle par ma trajectoire un peu plus personnelle, pour que ça ait du sens et que ça vous donne envie peut-être de poser des questions. Du coup, je commence par me définir par le fait que je suis une sportive avant tout ratée. C'est-à-dire que depuis que je suis toute petite, je veux faire de la course à pied et je vais être championne olympique, championne du monde. Je faisais du 800 mètres et malheureusement, j'ai échoué. Mais ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses qui auront du sens par rapport à ce sur quoi je travaille aujourd'hui avec ça. Donc je faisais de l'athlétisme et très vite j'ai pris conscience que la performance, si vous voulez, de genre l'emportait sur la performance en tant que telle, en tant que femme. Je dis ça parce que dès l'adolescence, on démixait les entraînements. C'est-à-dire que moi, donc, j'étais nulle, enfin, vous l'avez tous compris, et du coup je voulais me rapprocher de la norme dominante, la norme dite masculine en athlétisme, pour pouvoir m'entraîner encore plus en me disant si je m'entraîne comme un homme, comme les hommes, peut-être que musculairement, je vais plus me développer et je vais pouvoir accroître mes performances. Malheureusement, à partir de l'adolescence, parce qu'avant on s'entraîne tous ensemble, à partir de l'adolescence, quand les entraîneurs partent du principe que le corps évolue et donc la différenciation sexuelle rentre en compte, on sépare les entraînements. Donc ça a déjà été une de mes premières interrogations. La deuxième interrogation, c'est que du coup, parce que du coup, ça a du sens, comme j'étais pas forte, voilà, je me suis dit, à l'époque, c'était dans les années 90-2000, il y avait des disciplines qui n'étaient pas autorisées pour les femmes, et des disciplines dites de tradition masculine pratiquées essentiellement par les hommes, donc le marteau, la perche et le 3000 mètres stiple. Mais les femmes pratiquaient de manière officieuse ces activités. Et donc je me suis dit, comme il n'y a pas beaucoup de filles qui pratiquent, et ben, c'est vraiment vrai, je vais essayer de les pratiquer dans l'objectif de peut-être pouvoir monter sur le podium. Et, voilà. Et donc je me suis mise à faire du marteau, au grand dam de mes parents d'ailleurs, parce que du coup, en termes de socialisation, j'ai vu que même si j'avais des parents très ouverts qui me permettaient de tout faire, je voyais ma mère un peu inquiète. Voilà, tu vas faire du marteau, parce que ça renvoie, je sais pas si vous voyez, mais ça renvoie quand même à une norme de la masculinité, c'est un lancer, etc. Et bon, elle était rassurée parce qu'elle se disait que de toute façon, j'allais pas aller loin. Ça m'a permis d'être troisième au championnat départemental sur trois. Hein, donc j'ai eu ma médaille, j'ai réussi. Et du coup, moi, je ne pouvais pas aller plus loin, mais très jeune, très tôt, je me suis posé la question de savoir, par rapport à mes camarades qui étaient très fortes, elles, il n'y avait pas de championnat de France, encore moins de championnat d'Europe. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des bus et on accompagnait les garçons qui étaient forts au championnat de France, au championnat du monde, si on le pouvait, etc. Et donc, ça m'a tout de suite interrogée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour vous expliquer ? Vers 18 ans, j'ai compris que c'était complètement foutu pour moi et j'ai essayé de transformer donc, cette passion, cette volonté de devenir sportive de haut niveau autrement. Et j'ai intégré STAPS, Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. J'ai voulu devenir prof de PS. J'ai pas vraiment continué dans cette dimension parce que je me suis aperçue que j'étais vraiment intéressée, on pourrait y revenir, uniquement par le sport de performance, le sport de compétition. Et donc le sport, enfin le PS, le but c'est être dans une finalité sportive inclusive, faire pratiquer le plus possible les enfants. Moi, c'était vraiment que la performance qui m'intéressait. Et donc j'ai découvert qu'il était possible de faire de la recherche en STAPS. Et je me suis intéressée par ces problématiques de genre que j'avais, moi, vécues en tant qu'ancienne athlète. Et j'ai découvert, au fur et à mesure de mes lectures, quelque chose qui était complètement tabou et inconnu en France à l'époque, c'était en 2003, l'existence des contrôles de sexe, des tests de féminité ou des contrôles de genre. Dans une, rendons à César ce qui appartient à César, Sport et virilisme de Frédéric Bayette et Philippe Lyotard, qui parlait de ces contrôles de genre. Et donc, je me suis engagée dans une maîtrise en 2003 et j'ai essayé de comprendre ce qu'étaient ces contrôles de genre. Est-ce que je continue ou...
C'est assez passionnant, de remonter peut-être un peu dans le temps pour que, saisir justement ces contrôles,
ouais.
D'où ils sont partis,
ouais.
Et de la continuité en fait, des contrôles qui se sont succédés au fur et à mesure des années, même s'ils ont changé de modalité.
Ouais. Et donc j'ai beaucoup eu de mal parce que il y avait une légère littérature anglo-saxonne sur la question, mais c'était avant tout, et ça a du sens aussi, des médecins, donc des physiologistes, des endocrinologues, des gynécologues, beaucoup de médecins qui évoquaient les contrôles de genre. Et il y avait très peu de choses qui relevaient des sciences sociales, de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie. Et du coup, j'ai décidé en 2003 d'aller interroger des médecins. Donc un peu naïvement, parce que je découvrais la recherche, je suis allée interroger mon médecin du sport à l'époque et je lui ai dit, j'ai lu quelque chose sur les contrôles de genre. Il connaissait absolument pas l'existence des contrôles de genre. J'ai multiplié mes rencontres et personne n'était au courant, par rapport à tous les médecins du sport que j'ai rencontrés, de cette pratique. Donc, je me suis dit, c'est bizarre, pourtant ça a l'air d'avoir existé, il faut que je creuse. J'ai continué, je me suis acharnée, jusqu'à ce que je tombe sur un des médecins de la fédération, à l'époque c'était un des médecins de la Fédération Française d'Athlétisme, qui m'a mis en contact avec, à l'époque... La médecin, c'était une des rares femmes d'ailleurs, présidente, c'était la médecin de la Fédération internationale de volleyball. Et du coup, je la rencontre et là, elle m'explique cette histoire. Et donc, qu'est-ce que sont les contrôles de genre ? Ce sont des contrôles de genre qui ont été mis en place en 1966 pour la première fois pour les femmes au championnat d'Europe d'athlétisme à Budapest. Et si vous voulez, dans les années 30, alors on pourrait y revenir, mais je ne sais pas trop dans quel sens. Dans les années 30, progressivement, alors il a été très difficile pour les femmes de faire du sport de compétition. Dans les années 30, pour la première fois en 1928 à Amsterdam, elles ont le droit de faire cette épreuve reine, l'athlétisme, au sein des Jeux Olympiques, alors qu'avant ça ne leur était pas autorisé. Et ça va déclencher énormément de polémiques, notamment l'épreuve du 800 mètres. Donc moi, ça m'a renvoyé directement à mon expérience personnelle. Elles font du 800 mètres pour la première fois en 1928. Et elles battent le record du monde, parce que oui, les femmes ont toujours fait du sport. Elles faisaient ça de manière officieuse. Elles avaient pas le droit d'avoir leurs Jeux Olympiques, donc elles avaient ce qu'elles appelaient leurs championnats mondiaux, qui correspondaient aux Jeux Olympiques féminins, mais on pourra y revenir éventuellement. Et donc, du coup, elles font du 800 mètres. Le record est battu. par Lina Radke en 2:15, ce que moi je n'ai jamais fait en 1928, donc c'est déjà bien. Ça va susciter d'énormes polémiques, d'énormes réactions, parce que légitimement, elles sont épuisées, elles s'effondrent sur la ligne d'arrivée, elles sont en sueur, elles ont battu un record du monde hein, quand même. Et donc les médias, les scientifiques, les instances sportives disent que c'est pas possible que les femmes mettent en mouvement leur corps de cette façon, avec une telle intensité, une telle puissance et une telle violence. Elles n'auront plus le droit de concourir pendant 32 ans une épreuve supérieure à 200 mètres, je crois. Bref, tout ça m'amène à dire que dans les années 30, les femmes quand même, c'est une question qu'on me pose souvent, il y a vraiment une résistance. C'est-à-dire que souvent, de la même façon qu'on dit que les femmes n'ont pas toujours travaillé, elles ont toujours travaillé. De la même façon qu'on dit que les femmes n'ont pas toujours fait du sport, elles ont toujours mis leur corps en mouvement, elles ont toujours fait du sport. Depuis que le sport existe, elles ont toujours essayé et elles ont souvent eu des stratégies de contre-pouvoir, de résistance, on pourrait y revenir. Légitimement à nouveau, comme elles mettent leur corps en mouvement, dans une logique compétitive et de performance, leur corps va être, leur morphologie vont être bouleversées et changées par une activité physique intensive. Parce que si on fait du sport de haut niveau, inévitablement notre corps change. Et on va voir arriver sur les terrains sportifs des femmes qui sortent des critères normatifs de la féminité, de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc on va leur reprocher d'avoir trop de muscles, trop de poils. J'ai même trouvé dans des archives une athlète qu'on accuse d'avoir de trop grands pieds. À l'époque, elle faisait du 42, donc c'était... Voilà. pas de hanches, pas de seins. Tout ce qui a trait, enfin, tout ce qui renvoie au symbole de la maternité, c'était très important à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, on pourra y revenir également. Mais surtout, du coup, c'est tellement improbable que le vrai soupçon consiste à dire ce ne sont pas des femmes, ce ne sont pas des vraies femmes ou des femmes authentiques, ce n'est pas mes termes, je cite, dans ce que j'ai retrouvé dans les archives, ce sont des hommes déguisés qui, dans une finalité de victoire ou de performance, ne pourraient pas gagner dans les compétitions masculines, donc ils se font passer pour des femmes pour concourir. Pour y revenir, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du sport. Ça, c'est très important de le spécifier, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs et de légendes à ce sujet-là. Et pour réguler, et dans un objectif et dans un... Ouais, vraiment affiché de la part de la Fédération internationale d'athlétisme, pour préserver une équité, une égalité, je vais encore partir dans tous les sens, mais c'est important. Bon, on y reviendra. Posez-moi des questions sur l'égalité et l'équité dans le sport, parce que voilà, c'est vraiment très important. Parce que à la base, si vous voulez, ces contrôles sont choquants, inadmissibles, mais quand on parle d'un point de vue sportif, on peut les comprendre, parce que le monde du sport s'est fondé sur une illusion de l'égalité. Quand on regarde une compétition sportive, on est tous hyper contents de se dire qu'il y a une incertitude du résultat et on ne sait pas qui va gagner. Parce que si demain, je vous dis, il y a PSG-OM et puis c'est un match truqué et c'est sûr qu'il y aura 4-0 pour le PSG, ben, les spectateurs vont se désengager. Et le monde du sport ne fonctionne que par l'incertitude du résultat. Et comme on part du principe vrai, mais expliqué socialement et culturellement, du fait que les femmes sont inférieures biologiquement aux hommes, on a démixé. Et donc, on se dit, cette triche est inadmissible, donc on va essayer de continuer à maintenir cette égalité et on va mettre en place des contrôles de sexe, parce qu'on parle souvent de tests de féminité, mais c'est ma faute, ou de contrôle de genre. Et dans les archives que j'ai retrouvées récemment du CIO, c'est vraiment, et c'est la distinction est importante, ce ne sont pas des contrôles de genre à la base, ce sont des contrôles de sexe. On veut vraiment s'assurer que le sexe des femmes ou de ceux qui potentiellement trichent sont bien un sexe dit féminin. Donc en 1966, pour la première fois, contrôle de sexe. Quels sont ces contrôles de sexe? Toutes les femmes qui veulent participer au championnat d'Europe d'athlétisme à Budapest doivent passer devant... Alors, c'est très clair dans les archives, il fallait que ce soit 3 médecins femmes gynécologues. Mais déjà, c'était difficile à l'époque d'en trouver, et encore plus dans le milieu sportif, donc cette mesure n'a pas été respectée. Et donc, toutes les femmes devaient passer nues devant 3 médecins gynécologues et montrer leurs organes génitaux pour attester du vrai sexe de la sportive. Mais déjà là, il y a quelque chose qui se joue. Les instances dirigeantes sportives ne se contentent pas de regarder anatomiquement le sexe des sportifs pour dire c'est une vraie femme parce qu'elle a des organes génitaux féminins. Ils les font procéder à ce qu'on a appelé des tests de force. Donc toutes les femmes devaient presser dans une sorte de poire, un dynamomètre, pour évaluer leur puissance musculaire. Elles devaient souffler dans un spiromètre pour évaluer leur capacité respiratoire. Et donc les médecins, les instances dirigeantes sportives, partaient du principe, déjà, que les femmes devaient avoir une puissance musculaire et une capacité respiratoire qui reste en deçà de celle estimée masculine. J'ai rencontré des athlètes qui l'ont passé. Ça a été d'une violence que je vous la laisse imaginer, une violence symbolique. Certaines athlètes m'ont raconté ne jamais avoir subi de contrôle gynécologique, parce que je pense que je nuance et j'édulcore, mais c'était des vrais contrôles gynécologiques. Ils ne se contentaient pas uniquement de regarder les organes génitaux. On parle de tests visuels, mais c'était un contrôle gynécologique. Et donc, ça n'a pas tenu. Les athlètes se sont plaintes. Les entraîneurs se sont plaints. Les dirigeants des fédérations ont dit que c'était beaucoup trop humiliant et qu'il fallait absolument supprimer ces tests. Donc ça n'a pas duré longtemps. Mais au lieu de les supprimer, je vais passer vite à nouveau, mais tout un ensemble d'experts médicaux se sont regroupés au sein de l'IAF, la Fédération Internationale d'Athlétisme, et le CIO, pour essayer de, au lieu de remettre en cause la recherche du vrai sexe d'une athlète, ils se sont dit c'est trop humiliant, donc on va changer les tests et on va trouver un test, je cite, moins invasif. Et ils ont mis en place en 68 pour la première fois au JO de Mexico et au JO de Grenoble, d'abord Grenoble et après Mexico, ce qu'on appelle les tests de corpuscule de Barre. Donc ils sont partis du principe que c'était moins invasif, effectivement, parce qu'il s'agissait juste de prélever de la salive avec un coton-tige et de procéder à ce qu'on appelle un karyotype. Et tout le monde, même moi, hein, je ne vais pas le cacher, quand j'ai commencé ces recherches, partait du principe qu'une femme, une vraie femme, ce qu'on nous avait appris, ce qu'on m'avait appris, était XX chromosomiquement et un vrai homme XY. Problème, c'est que le monde du sport s'aperçoit de quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, l'intersexuation, ce qu'on appelle aussi parfois communément l'hermaphrodisme. Et on s'aperçoit qu'il y a des athlètes femmes qui sont XXY ou XY, et il y a une infinité de différenciations chromosomiques. Donc là, c'est un problème. Le test va durer jusque dans les années 90, jusqu'à ce que la Fédération Internationale d'Athlétisme et tu me dis Céline si je pars trop parce que quand je suis partie je suis inarrêtable.
Il faut filer jusqu'à aujourd'hui.
Ouais, ok. jusqu'à ce que ils s'aperçoivent que beaucoup, enfin pas beaucoup, non, certaines athlètes sont XXY et présentent ce qu'on appelle une insensibilité aux androgènes partielle ou totale. C'est-à-dire qu'elles ont un Y qui produit de la testostérone. Mais parce que c'est vraiment la testostérone qui pose problème, du coup. Mais leur récepteur, alors je suis désolée, je ne suis pas biologiste, je fais toujours attention à ce que je dis, mais ce n'est pas facile. Leur récepteur n'assimile pas la testostérone, donc leurs taux hormonaux restent dans les seuils autorisés. Et là, ils sont embêtés parce que le test de corpuscule de Barre recherche le Y et ils s'aperçoivent qu'ils excluent des femmes qui ont un Y. Donc, la Fédération internationale d'athlétisme trouve ça trop compliqué, etc. Ils décident de laisser de côté le test de corpuscule de Barre. Mais le CIO, le Comité international olympique, lui se dit... Alors, c'est très important, la Fédération internationale d'athlétisme décide de supprimer le test de corpuscule de Barre. Non, j'ai des conneries. Non, si, c'est ça.
Il y a un recherché dans ton bouquin.
Ouais, mais attends, parce que j'ai un... Ouais, bon, bref. Bon, l'idée, vous avez compris. On recherche le deuxième X. La Fédération internationale d'athlétisme, c'est compliqué. En revanche, le CIO se dit, bizarrement, et c'est sur quoi je travaille aujourd'hui, parce que j'ai du mal à comprendre, il se dit, bah, on va pas chercher le deuxième X, parce que ça marche pas, mais en fait, on va aller chercher le Y, la présence du Y. Donc, ils mettent en place le test qu'on appelle PCR-SRY, pour cette fois-ci faire ressortir... C'est le même principe, on prélève de la salive et on fait, cette fois-ci, pas, on recherche pas le deuxième X pour attester de ce qu'est une vraie femme, mais on fait ressortir le Y pour exclure, si vous voulez, les femmes qui ont un Y du champ des femmes. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que, en fait, les femmes étaient déjà XXY. Enfin, j'arrive pas à comprendre si, un petit peu, en fait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'était pour exclure, cette fois-ci, les femmes XY qui présentent ce qu'on appelle de l'hyperandrogénisme féminin. Parce que dans le cas du XXY, je vous ai bien dit qu'elles ont une insensibilité partielle ou totale aux androgènes, donc celles-ci, elles ne posent pas trop de problèmes. Mais celles qui posent problème, ce sont les femmes qui présentent ce qu'on appelle de l'hyperandrogénisme féminin, donc le Y fonctionne. Ça va marcher jusqu'en 2000. La problématique de ces tests, on pourrait y revenir, mais ils ne sont absolument pas fiables. C'est quand même un scandale dans l'histoire du sport. J'ai rencontré un médecin qui m'a dit que sur des jeux du Commonwealth, un médecin était malade, il a éternué énormément, il toussait, il a pollué le goupillon. Et donc, ils se sont retrouvés avec plein de femmes qui n'étaient pas des vraies femmes. Ils ont dû refaire passer les tests. Donc voilà, et c'est vraiment... Donc le test de Barre était estimé fiable à 65%, 60-65%. Le test PCR-SRY à 99%. Mais les contestations venaient même, faut pas que je trahisse quand même ce qui s'est vraiment passé, de la part des généticiens eux-mêmes, des endocrinologues et même du milieu sportif. Ils disent, c'est pas possible, 1% d'erreur est inacceptable. Donc du coup, ils décident en 2000, définitivement tout le monde, 2000 aux Jeux de Sydney, de supprimer les tests. Que ce soit, je parle beaucoup de la Fédération internationale d'athlètes parce que c'est partie d'eux, mais il faut savoir qu'il y avait le CIO, donc toutes les disciplines étaient concernées. Que vous fassiez de l'équitation, la seule femme qui n'a pas passé, et ça a du sens, le test pendant le moment où c'était obligatoire, c'est la princesse Anne qui a fait les JO en 76 à Montréal en équitation. Elle, on dit, on va pas quand même pas faire passer un test à une princesse. Et ça a quand même du sens. Vous allez voir que ça a du sens dans ce qui va venir.
C'est quand même une vraie fille, c'est ça. Hein.
Voilà, elle, quand même une princesse. Hein, voilà. Et donc en 2000, on supprime tout. Mais si on regarde les règlements, ils suppriment les tests de manière obligatoire, sous réserve, et c'est encore pire, en cas de doute ou de suspicion visuelle sur une athlète, on s'autorise et on se protège dans les règlements à faire passer des tests sanguins, chromosomiques et autres, et hormonaux. On n'en parle plus beaucoup, on n'en a jamais parlé de toute façon, bref, mais ça se calme jusqu'à l'été 2009, au championnat du monde de Berlin, Caster Semenya. Donc c'est une jeune athlète sud-africaine qui a 18 ans à l'époque, qui remporte au championnat du monde d'athlétisme à Berlin le 800 mètres en 1 minute, 55 secondes et 45 centièmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette course, moi elle était incroyable. Deux choses, elle ne bat pas le record qui est détenu par Jamila Kratichlova qui date de 1983 et elle a fait 1 minute 53 secondes. Alors il y a des énormes suspicions de dopage, on pourrait y revenir sur cette Allemande de l'Est, mais elle ne bat pas le record quand même. Et une précision que les médias, les scientifiques oublient d'apporter, elle est à 15 secondes des records masculins, ce qui est énorme sur un 800 mètres. C'est-à-dire qu'avec un tel temps, Caster Semenya, elle ne peut même pas être qualifiée au championnat de France sur le 800 mètres masculin. Pourtant, sa victoire va déclencher un scandale mondial. Vous avez sûrement plus ou moins entendu parler, enfin, je pense. On va lui reprocher d'aller trop vite, mais pas tant. Parce que je vous ai bien dit que la problématique, c'est pas qu'elle aille trop vite, parce que la bicatégorisation sexuée homme-femme en termes de performance, qui fait peur, n'est pas remise en cause. Elle aurait couru en 1 minute 40, là, la problématique est autre. Ce qui va gêner, et c'est Jean-Pierre de Mondenard, pour ne pas le citer, qui va dire, c'est un médecin du sport, qui a beaucoup travaillé sur les tests de féminité, qui va dire sur Europe 1 le lendemain de sa victoire, et d'autres, hein, je le cite parce que voilà, mais... qui va dire que Caster Semenya ne ressemble pas à une vraie femme, elle est trop poilue, elle est trop musclée, elle a une coiffure dite masculine, elle a une voix vraiment, vraiment grave, donc ça pose problème, elle n'a pas de seins, et elle a une pilosité, je ne sais pas si je l'ai dit, anormalement accrue, et surtout, ça va être posé, et alors là, voilà, elle porte un Bermuda, si vous regardez la course, au lieu d'une culotte, comme elle a un cycliste masculin, en fait, et elle n'a pas une culotte. Voilà. Et ça, ça a vraiment eu du sens. On lui a vraiment reproché en disant, bah, vous voyez, elle a un Bermuda, elle a quelque chose à cacher. Donc du coup, ça va être terrible ce qu'elle va vivre. On va l'accuser d'être un homme, on va l'accuser d'être une fausse femme, etc. Et elle va devoir subir des tests hormonaux, des tests sanguins. On va mettre sa victoire et sa médaille en suspens et elle va devoir subir toute une batterie de tests jusqu'à ce que... Alors, il y a le secret médical, c'est très important, et j'ai toujours une gêne de parler intimement de cette athlète parce qu'en plus, elle n'aime pas ça et elle est femme et elle restera femme et elle se vit en tant que femme. Mais on peut présager que c'est ces tests hormonaux, sanguins et chromosomiques qui ont amené, en 2011, à un nouveau règlement qui est en vigueur aujourd'hui, ce sont les règlements sur l'hyperandrogénisme féminin. C'est-à-dire que depuis 2011, dès lors que quelqu'un émet des soupçons sur l'éventuelle masculinité ou performance trop élevée d'une sportive, ces sportives peuvent être amenées à passer des tests sanguins et hormonaux, surtout pour mesurer quoi ? Aujourd'hui, ce sont des tests qui mesurent exclusivement la testostérone, les taux de testostérone. C'est aller encore plus loin, puisque des médecins leur ont conseillé éventuellement de subir ce qu'on appelle une ablation de l'hypertrophie, enfin, comment ils appellent ça, une clitéro... Enfin, réduire leur clitoris, parce que certaines femmes ou certaines athlètes peuvent avoir ce qu'on appelle une hypertrophie du clitoris. Et ça, à chaque fois, je cite un de mes étudiants qui, un jour, m'a dit une réflexion que j'aurais aimé avoir moi. « Mais madame, en quoi avoir un long clitoris permet d'avoir des avantages sur 800 mètres ?» Et je trouve ça génial. Et j'étais tellement dans mes sujets que j'y avais pas pensé. Je me suis dit « C'est vrai ?» Bref, je le disais tellement et j'étais « Mais c'est vrai. » Donc voilà, on leur a... je finis.
Oui,
je continue.
Des questions.
C'est très très long. Hein, mais... ouais. 2011, donc Semenya sort du champ, enfin ne concourt plus. Beaucoup de chercheuses anglo-saxonnes dans toute une équipe disent que ces règlements mettent en danger la santé des athlètes, c'est-à-dire que ça crée des nausées, des évanouissements, des vertiges, parce que je vous laisse imaginer ces athlètes qui doivent s'injecter pour des œstrogènes pour réduire leurs taux hormonaux. Ça réduit, enfin ça change complètement, ça bouleverse un corps. C'est... Et donc du coup, Semenya, ça arrange tout le monde pendant longtemps, elle perd effectivement en performance et c'est pas uniquement hormonal, c'est tout ce qui lui est arrivé, mais elle arrive à revenir sur le devant de la scène. Et 2014, Duti Chand, une indienne, gagne les Jeux Asiatiques Juniors au 100 et au 200 mètres avec des temps respectable, à nouveau je le dis, je ne les ferai pas moi-même, mais qui ne me remettent pas du tout en danger la bicatégorisation sexuée. Elle est en 11 secondes, 52, voire 12 secondes, sachant que le record de Bolt est en 9,58, donc sur un 100 mètres, c'est... Et elle ne remet même pas en cause, enfin, elle n'est pas destinée à être une athlète qui va bouleverser le 100 mètres féminin. Pourtant, elle est exclue des compétitions, et on lui demande de réguler ses taux hormonaux, alors que, j'insiste, elle n'a pas des performances qui remettent en cause la bicatégorisation ou même excellent par rapport à la catégorie féminine. Et de subir éventuellement des opérations chirurgicales. Sauf que Duti Chand, en 2014, elle a connu le cas de beaucoup d'autres athlètes et c'est une des premières athlètes dans l'histoire, c'est pas la première, mais une des premières athlètes dans l'histoire qui décide de refuser ce règlement. Et elle saisit une instance très importante dans le milieu du sport qui s'appelle le tribunal arbitral du sport. Et elle a été aidée par une avocate, par des chercheuses, et elle écrit au tribunal arbitral du sport en disant « Je n'ai pas triché, je ne me suis pas dopée. En plus, je n'ai pas des performances. » Alors, elle est géniale dans sa défense, parce qu'elle le dit. « En plus, ça va, je ne vais pas remettre en cause le 100 mètres. Je ne vois pas pourquoi je devrais subir des traitements hormonaux. Je ne comprends pas, donc il va falloir me le justifier. » Le tribunal arbitral du sport est très embêté et il va s'engager tout un débat et un procès, hein, une sorte de procès, entre la Fédération internationale d'athlétisme et Duti Chand. Duti Chand va gagner en 2014, puisque le tribunal arbitral du sport, en 2015, va estimer qu'il n'y a pas d'évidence ou de preuve scientifique qui permettrait d'attester que la testostérone naturelle, endogène, permet d'accroître les performances. Il est évident et prouvé dans toute la littérature médicale et scientifique que la testostérone exogène permet d'accroître les performances. Mais endogène, aucun scientifique ne parvient à le prouver. Donc elle gagne. Donc Semenya revient. Donc elle peut concourir. Et heureusement, j'ai envie de dire, mais du coup c'est assez dramatique, Semenya retrouve son meilleur niveau et devient championne olympique en 2016 à Rio et commence à tout exploser. Et Semenya, qui est une athlète incroyable au même titre que Bolt, ne se contente pas du 800 mètres, décide de s'attaquer aux 1500 mètres, donc des disciplines en plus un peu reines quand on connaît l'athlétisme. Et elle commence à exploser tous les records, à faire des choses incroyables. Elle s'attaque aussi aux 400, ce qui a mené à cet été... la réminiscence. Ah oui, non. Le TAS, le tribunal arbitral du sport, avait donné 2 ans à la Fédération internationale d'athlétisme pour prouver que la testostérone endogène permettait d'accroître les performances. Alors, ils ont bossé comme des malades pendant 2 ans et ils ont sorti leur règlement en 2017 en essayant de montrer sur un échantillon de la population des athlètes médaillés de 2008 à 2013, je crois, en essayant de montrer... que ça permet, enfin les femmes qui produisaient qui étaient hyper androgéniques avaient des performances supplémentaires en mesurant leur taux de testostérone. Alors c'est de l'ordre de 4% au marteau, 5-6%, ça ne va pas jusqu'à 10-12%, c'est ce qui était demandé, jamais. Je vais faire court, mais l'idée c'est que C'est clairement Semenya qui est visée, puisque aujourd'hui, ce qui se passe, ça va, ce règlement, on est vraiment dans une actualité sportive importante. Le 1er ou le 5 novembre, je ne sais plus, 2018, là, le règlement va réexister. Et donc, toutes les athlètes qui produisent... alors avant, oui, j'ai oublié de le dire, c'était important. En 2011, les femmes ne devaient pas produire plus de 10 nanomoles par litre de sang de testostérone. Depuis ces études, ça a diminué. Maintenant, c'est 5 nanomoles par litre de sang de testostérone. Et clairement, si vous regardez les nouveaux règlements, c'est Caster Semenya qui est visée, une seule athlète, parce que ça va du 400 mètres au miles. Alors que... On pourrait penser, comme le marteau, ou d'autres disciplines, où effectivement, il peut y avoir des athlètes hyperandrogéniques, et c'est de l'ordre de 4% ou autre, ce n'est pas incriminé, ou l'haltérophilie, ou d'autres épreuves, où effectivement, la testostérone peut être un avantage. Et donc là, le combat continue. Et heureusement, ce que Caster Semenya n'avait pas fait en 2009, elle porte plainte auprès du tribunal arbitral du sport pour remettre en cause ce règlement. Et là, j'ai trop parlé, et j'ai tout dit, je crois. On est arrivé vraiment... voilà.
Sauf que là, récemment, Semenya, du coup, il y a eu quand même du scandale qui est revenu dans les médias.
Ouais.
Du coup, elle en est où, Semenya, aujourd'hui, à l'heure actuelle?
Ben, elle attend. Du coup, ben, le règlement va être en vigueur. De toute façon, ça va passer à partir du 1er novembre 2018. Et ça va être long. Et elle va faire la même chose que Duty Chand. Elle va dire qu'elle n'est pas dopée. Elle va dire qu'elle n'a pas triché. Elle va réclamer d'être considérée comme une sportive à part entière. Et je suis très inquiète. Pour le coup, je ne sais pas ce qui va se passer.
On attend la décision du
tribunal. Ouais, exactement.
Moi, je me demande juste comment il justifie, parce que mettons qu'effectivement il arrive à prouver que ce haut taux de testostérone soit un avantage physique. Il pourrait y avoir plein d'autres avantages physiques d'un sportif. Quelqu'un qui mesurait 20 cm de plus, ça pourrait être considéré comme un avantage physique. Et comment ils vont en venir à justifier que cet avantage physique ou cette particularité, mettons, ce truc au-dessus de la moyenne qui l'aiderait à gagner si ça l'aide à gagner, soit... d'une nature autre que celle d'avoir, d'avoir 20 cm de plus pour jouer au basket ou d'avoir je sais pas quoi.
C'est exactement ça. Et c'est complètement subjectif. Et c'est ce qu'ils font. Ils mesurent tous les taux hormonaux des médaillés depuis 2008 à 2013 en athlétisme uniquement. Et ils s'aperçoivent que les médaillés ont des taux hormonaux plus élevés.
Chez les hommes et chez les femmes ou
que ouais, chez les hommes et chez les femmes. Mais chez les hommes, ça pose pas de problème.
Mais oui, pourquoi?
Et ben alors, on pourra y venir, ça pose pas de problème. Et donc ils se rendent compte de ça, et donc exactement. Et donc du coup, ils partent du principe que comme ces femmes produisent plus de testostérone, c'est un avantage. Or c'est exactement ce que disent, ce que va dire Semenya et ce qu'a dit Duty Chand en disant que du même ordre qu'un rythme cardiaque bas, il y a des études qui sont sorties pour prouver que il y avait beaucoup plus de médaillés chez de gauchers chez les médaillés en escrime. Ça peut être considéré comme un avantage physique également. La taille et puis c'est surtout ce qui leur est reproché, c'est comment, et c'est pour ça qu'à mon avis on va pouvoir se battre, et comment on isole. Et beaucoup de scientifiques, d'ailleurs, vont à l'encontre des médecins de la Fédération internationale d'athlétisme, parce que comment on isole la testostérone, c'est pas prouvable. Comment on peut isoler uniquement la testostérone des autres, par exemple, hormones qu'un corps produit, le cortisol, les hormones de croissance, etc. Et comment on peut juste dire que c'est la testostérone qui permet de les rendre médaillés? Ça tient pas du tout. Et c'est là-dessus qu'on joue d'ailleurs, et c'est nos publications, nos combats, mon livre, c'est de dire que même au-delà de ça, c'est pas que la testostérone, parce que sinon tous les gens qui font 2 mètres seraient champions olympiques, et puis il y a tout le contexte socio-culturel, l'éducation, la socialisation, le pays dans lequel on est né, et puis je pourrais multiplier à l'infini tous les éventuels avantages qu'on pourrait prendre en compte.
Est-ce qu'il n'y a pas justement une question du dopage derrière tout ça, c'est-à-dire de cibler la question
Si. Et en fait, c'est historiquement, c'est intéressant, puisque il y a un amalgame énorme et une confusion qui s'opère entre la testostérone produite de manière naturelle et la testostérone exogène. Et c'est historiquement hyper prouvé, parce qu'en 1964, quand pour la première fois apparaît la commission médicale du CIO, au sein de cette commission, ils décident pour les prochains JO de mettre en place 2 contrôles. Pour la première fois, des contrôles de dopage pour les 2 sexes. Mais également des contrôles de sexe pour les femmes. Et donc, on voit bien, si on lit les archives, qu'il y a une énorme confusion en estimant... Déjà, on part du principe qu'être un homme est un avantage naturel, physiologique et biologique. Donc voilà, ce qui n'est pas évident. Et ils partent du principe aussi que c'est mélangé et qu'il y a une confusion. En fait, il y a un amalgame entre la virilisation artificielle et la virilisation naturelle. Et ils n'arrivent pas uniquement pour les femmes. uniquement pour les femmes. Ils n'arrivent pas à se dire.
Aussi, le mot testostérone, c'est juste un mot symbolique qui est réservé à une masculinité virile.
Complètement.
Et dès que c'est déplacé sur une femme, c'est quelque chose qui doit être supérieur, enfin, qui être inférieur devient supérieur. Quelque chose qui est plutôt macho, en fait.
C'est ça, exactement. Et c'est hallucinant parce qu'une femme grande dans le monde du sport, ça ne dérange pas tant que ça. Une femme même qui va être, qui va avoir une élasticité musculaire incroyable, ça ne va pas déranger, qui va aller hyper vite. Mais c'est la testostérone qui leur pose problème. C'est vraiment la seule chose.
Oui, parce que c'est réservé au domaine du masculin.
Exactement, exactement. C'est le privilège de la masculinité. Tu as le droit de produire de la testostérone uniquement si tu es un homme.
Et alors tu disais, dans ton article, tu racontes aussi que le problème se pose surtout pour les femmes de pays du Sud,
ouais.
Parce que l'intersexuation
est
plus vite, enfin est réglée un peu...
Mais merci parce que j'en ai pas du tout parlé.
Vous avez entendu la question juste ?
Ouais. Alors, du coup, ce que j'ai constaté au fur et à mesure de mes recherches, c'est que je me suis aperçue que dans les années 60, au moment de la mise en place du test, c'était pas n'importe quelle femme à qui qu'on soupçonnait, et qu'on accusait d'être des hommes ou des femmes inauthentiques. C'était très majoritairement des femmes de l'Est. Des Roumaines, des Russes. Les soupçons se portaient uniquement sur ces femmes qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qui apportaient une nouvelle forme de féminité, qui n'était pas du tout occidentale, sur les terrains sportifs. D'ailleurs, on prend souvent dans les représentations, je l'entends encore, et c'est marrant, « Oh, elle ressemble à une nageuse est-allemande. » Je ne sais pas si ça vous parle. Et en fait, quand on regarde les nageuses est-allemandes, c'est juste des femmes qui ont performé leur genre, leur corps. Alors effectivement, il y a la problématique du dopage aussi, mais le dopage était aussi chez les Américaines. Et pourtant, on n'en parle pas. C'est pas le dopage, c'est pas arrêté, c'est ce que je dis, c'est pas arrêté à la frontière est-ouest, non en fait. Donc c'est d'autres formes de dopage, c'est des dopages parfois plus visibles effectivement dans les corps, mais tout le monde, quels que soient les pays et les nations, se dope, alors avec plus ou moins de moyens, mais voilà, on pourrait faire un cours entier sur le dopage, bref. Mais pourquoi je disais ça ? Les femmes qui dérangent, qui bousculent si vous voulez les critères normatifs de la féminité dont on avait l'habitude de voir sur les terrains sportifs, c'est uniquement les femmes de l'Est. Et donc... pour moi, clairement, quand le test a été mis en place en 1966, c'est pas n'importe quand, c'est en pleine guerre froide, et pour moi c'est un arbitre géopolitique. C'est pour essayer de réguler les performances des athlètes de l'Est. Puisque avant, l'ex-URSS n'apparaissait pas, n'avait pas le droit de participer aux JO, et il réapparaît, je crois, j'ai peur de dire une bêtise, à chaque fois je me trompe, 1952 ou 56, je sais plus, et... Ben, pour la première fois, on voit une nation concurrencer les États-Unis. Et ça pose problème, du coup, en termes de médailles, en termes d'enjeux politiques et économiques. Et donc, on va vouloir réguler les performances de ces athlètes de l'Est, parce qu'en plus, là-bas, il y a toute une volonté très forte et affichée politique de mettre en mouvement les corps des femmes, et c'est une autre forme de féminité. C'est pas la même forme de féminité qu'on a l'habitude de voir chez les Américaines. Et qu'est-ce qui va se passer au moment des années 90, avec l'effondrement de l'ex-URSS et la chute du mur de Berlin, il va y avoir un dénivellement des performances de ces athlètes féminines de l'Est. Et on va voir apparaître, alors c'est un peu avant, mais l'hégémonie des africaines-américaines, qui vont commencer à tout exploser en athlétisme. Sauf que ces africaines-américaines, comme Florence Griffith Joyner, je ne sais pas si vous voyez dans les années 80, c'est celle qui détient encore actuellement en 10,59 le record du 100 mètres, elle a très bien compris, elle l'écrit dans sa biographie, de toute façon, les femmes noires sont virilisées, sont considérées comme viriles, comme... C'est dans les représentations, c'est dans l'histoire. Ça ne choque pas, si vous voulez, les représentations occidentales. Donc, ça ne surprend pas, si vous voulez, de voir des africaines-américaines exceller, être dans la force, dans la virilité. Sauf que comme elles veulent qu'on les laisse tranquilles, elles vont développer, et elle le dit clairement, des stratégies d'hyperféminisation. Et ça va marcher parce qu'elles vont être hyper sexualisées dans les médias. Donc vous avez Florence Griffith Joyner qui va mettre des combinaisons en dentelle, qui va surjouer sa féminité, qui va pour que, clairement, c'est affiché, qu'on la laisse tranquille, parce que si vous enlevez la dentelle, le maquillage, le vernis à ongles, les boucles d'oreilles, bah, elle a un corps d'athlète de haut niveau qui court le 100 mètres. Donc voilà. Et donc, ça va calmer les soupçons, les doutes, et elles vont être essentiellement accusées de dopage. C'est le dopage la problématique, toutes ces athlètes occidentales. Et y a un nivellement par le bas des performances des athlètes d'Est. Sauf que, dans les années 2000, apparaissent des athlètes non occidentales qui présentent, et c'est pas d'ailleurs non blanche, c'est non occidentale, ça a du sens, qui présentent une autre formes de féminité qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les terrains sportifs. Vous avez des Indiennes, des Sud-Africaines, des Brésiliennes, des Nigérianes, des Kenyanes, qui apportent une autre norme de la féminité qu'on n'a pas l'habitude de voir. Une Sud-Africaine sur 800 mètres, c'est du jamais vu. Une Indienne, déjà aux Jeux Olympiques, c'est du jamais vu, etc. etc. Et du coup, depuis 2000, je vous ai dit, il y a eu la suppression systématique des tests. Donc on n'imposait pas à tout le monde. C'est devenu encore plus, à mon sens, discriminant, parce que tous les cas que j'ai recensés des athlètes à qui on a imposé ces tests sur soupçon visuel, ce ne sont uniquement des femmes issues de pays non occidentaux. Et c'est pas, la problématique, elle n'est pas couleur de peau. Elle est pas, je me suis trompée au début dans mes études, c'est pour ça que j'évolue à chaque fois. Mais au début, je disais antagonisme Est-Ouest et Nord-Sud. Je me suis plantée, en fait. Du coup, j'ai continué à travailler, parce que parfois, dans mes articles, je l'ai dit, donc sachez que je ne le dis plus. Du coup, non, mais c'est vrai, quand on écrit des trucs, et on n'assume plus trop, mais bon. Après, on a fait avancer la recherche. Et en fait, ce n'est plus du tout un antagonisme Nord-Sud, c'est une problématique Occident-non-Occident. Et donc le Nord-Sud ne fonctionne pas, en fait. Et donc, dès qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme Caster Semenya, Duty Chand, vous pouvez regarder Edi Nancy Silva, une Brésilienne à qui on a imposé une gonadectomie, parce que c'est une athlète intersexe qui avait des testicules intra-abdominaux et qui produisait plus de testostérone. Pour participer au JO d'Atlanta en 96, on lui a demandé de subir une gonadectomie et de procéder à une hormonothérapie. On n'a jamais demandé ça à des athlètes occidentales.
Mais aussi parce qu'on le fait à leur naissance.
Exactement. Merci beaucoup. En fait, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, les pays non occidentaux sont accusés d'une mauvaise gestion de l'identité sexuelle. Parce qu'est-ce qui se passe dans les pays occidentaux? C'est que quand on a un enfant, et d'ailleurs, nous, on a très majoritairement une naissance hyper médicalisée. Toutes ces athlètes, il y a une dimension importante que j'oublie aussi et dont je ne parle pas assez. Il y a la problématique de la classe sociale qui rentre en jeu. C'est-à-dire que Caster Semenya, Edi Nancy Silva, Santi Sudarajan, toutes ces athlètes, parce qu'il y a une vingtaine de cas depuis 2000, aucune athlète occidentale, qu'on soit bien d'accord, racontent qu'elles ont eu une naissance absolument pas médicalisée, qu'elles n'ont pas vu de médecin à la naissance, qu'elles ont grandi dans le genre qu'on leur a octroyé, dans le sexe qui est le leur, sans aucun problème. Et que c'est le monde du sport qui leur a fait comprendre ou fait prendre conscience qu'elles n'étaient pas des vraies femmes. Semenya le dit, moi j'ai eu aucun problème avec mon identité de genre, mon sexe, et c'est au moment où j'ai commencé à exceller qu'on m'a fait comprendre que j'étais pas une vraie femme. Et en fait, la plupart de ces femmes n'ont effectivement pas, comme c'est le cas pour les athlètes occidentales, donc c'est pour ça que les doutes sont beaucoup moins émis aussi sur ces athlètes, c'est que elles ne sont pas opérées à la naissance. Et on leur impose pas une hormonothérapie et une gonadectomie et tous les traitements hormonaux que les personnes intersexes peuvent vivre en France, d'ailleurs encore au XXIe siècle.